Qui est mon prochain? C'est la grande question, sans doute, de l'Évangile, une des grandes questions de l'Évangile, de l'existence. Une grande question que pose déjà l'Ancien Testament, que pose déjà le prophète Amos, qui rappelle dans le royaume de Samarie, nous sommes à peu près 8 siècles avant Jésus-Christ, qui rappelle aux notables de ce royaume, parce que ce discours dur, hein, vous l'avez entendu, d'Amos s'adresse aux notables, aux responsables politiques et religieux, en leur disant « Vous avez oublié qui est votre prochain. Vous restez dans vos tours d'ivoire, dans vos lits d'ivoire, vous menez grande vie, et vous oubliez que votre responsabilité, c'est d'avoir le souci du peuple. C'est d'avoir le souci des plus pauvres. Et malheur à vous, parce que cet oubli-là va amener sur le pays, et malheureusement, sur les riches et sur les pauvres du pays, une immense catastrophe. Le royaume de Samarie va être envahi, une partie du royaume va être déportée. Malheur à vous, dit le prophète Amos, assez notable. Et ainsi, le prophète Amos s'inscrit dans toute cette tradition prophétique de l'Ancien Testament qui dit que l'alliance de Dieu est liée à 2 choses essentielles qui sont non négociables. Il y a des choses négociables avec Dieu. Abraham a négocié avec Dieu, mais il y a des choses qui sont non négociables. Et elles sont très simples. Vous ne devez adorer qu'un seul Dieu, moi, pas d'idolâtrie. Et nous savons combien le peuple... Et combien nous aussi nous sommes tentés par toutes sortes d'idolâtries, un seul Dieu à adorer, et l'autre vocation, l'autre manière d'entrer et d'être fidèle à Dieu, d'entrer dans son alliance, c'est d'avoir le souci du plus démuni, c'est d'avoir le souci du plus pauvre, c'est de donner droit à son prochain. Et vous savez, il y a dans tout l'Ancien Testament ce que reprend aussi le Christ dans sa prédication, le souci de la veuve et de l'orphelin, qui sont les 2 figures de la pauvreté à l'époque au cœur du peuple d'Israël. La veuve et l'orphelin qui ne peuvent vivre sans le secours de la solidarité, sans le secours de la communauté. Séparation totale entre ces riches notables. Relisez, hein, le prophète Amos, qui sont dans leur tour d'ivoire, et les plus pauvres du peuple. Séparation totale aussi dans cette parabole que Jésus propose à ses disciples, où nous voyons un riche et un pauvre, pourtant en proximité l'un de l'autre. Le pauvre est couché devant la maison de ce riche, mais qui n'ont aucune relation. Séparation totale, même pas un regard, même pas un échange. Séparation encore dans le royaume de Dieu entre ce pauvre et ce riche, le pauvre qui trouve sa consolation dans le sein d'Abraham, et le riche qui trouve sa condamnation dans les enfers, où les temps sont difficiles. À qui s'adresse cette parabole? Eh bien, je crois, il me semble, et je vais vous donner 3 indices qui me laissent le supposer, que cette parabole s'adresse aussi d'abord aux notables d'Israël à l'époque de Jésus, et notamment à ces notables religieux que sont les pharisiens, sûrs de leur bon droit, sûrs de leur foi, sûrs de leur justice, et qui, dans cette sûreté, oublient eux aussi les plus démunis de la société. 3 indices que je vous donne. D'abord, la convocation d'Abraham de nombreuses fois dans cette parabole. Et il me semble qu'au travers de la convocation de cette figure, c'est la question d'identité qui est posée dans ce texte. Comment être fils d'Abraham? Comment être sûr d'être fils de Dieu? Les pharisiens sont persuadés de leur bon droit. Il n'y a pas d'autre manière d'être fils d'Abraham que d'être pharisien, que de lire les Écritures, que d'aller au temple. Voilà l'essentiel. La pauvreté, l'injustice, cela ne nous regarde pas. Ce que nous demande le Seigneur, c'est d'être des gens purs, qui fuient l'impureté, c'est d'aller au temple. Et c'est de relire les Écritures, car c'est vrai, il faut leur donner ce droit-là. Le courant pharisien a renoué avec une lecture approfondie des prophètes. Premier indice qui laisse supposer que cette parabole s'adresse aux pharisiens. Deuxième indice, on ne sait rien de ce riche, sinon qu'il est couvert de lin avec une toge pourpre. Or, le pourpre, c'était la couleur du grand prêtre. Donc là, il me semble que c'est un indice évident que Jésus veut s'attaquer justement à la prêtrise pharisienne. Enfin, troisième indice, je vous l'ai dit, les pharisiens sont en quête de pureté. Or, voici, au cœur de cette parabole, nous voyons l'animal impur par excellence, un chien, venir s'approcher de Lazare et comble d'horreur. Non seulement il s'approche de lui, mais en plus, il lui lèche les plaies. Abomination totale pour un pharisien. Abomination totale. Et pourtant, ironie de l'histoire, ironie de l'évangile, je l'entends en tout cas ainsi, voici que cet animal impur par excellence va se révéler être celui qui est le plus proche de pauvre, celui qui a finalement le visage le plus humain vis-à-vis de ce pauvre, puisqu'il soulage les plaies de ce pauvre par sa langue en léchant ces plaies-là. Ironie de l'histoire, celui qui est considéré comme impur est celui qui finalement est le plus fraternel. Inentendable, évidemment, pour les pharisiens. Comment être fils d'Abraham? Comment être fils de Dieu? Comment honorer l'alliance que Dieu, dans sa grande bonté, dans son grand amour, a conclue une fois, un jour, avec le peuple d'Israël? Le protestantisme a tenté de répondre à cette question en donnant trois axes de spiritualité. Vous connaissez le triptyque, sola gratia, sola fide et sola scriptura. Et je voudrais convoquer ces trois axes et les faire dialoguer avec cette parabole du riche et du pauvre. D'abord, les Écritures seules. Et ce qui est frappant, c'est qu'au cœur de ce texte, au cœur de cette parabole, justement, il nous est dit, et il est dit aux gens qui écoutent Jésus, vous n'aurez pas d'autre témoignage du royaume de Dieu que les Écritures. Plongez-vous dans les Écritures et vous saurez ce qu'il en est du royaume de Dieu. Je vous le rappelle, Jésus dit cela 800 ans après que le prophète Amos ait prêché, et Jésus, de nombreuses fois, va convoquer l'Ancien Testament, va convoquer les prophètes afin de transmettre son message. Et il nous faut recevoir, nous aussi, encore aujourd'hui, cette parole pour connaître le royaume de Dieu. Pas besoin de gourou, pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de gens qui convoquent les esprits. Il nous suffit de relire les Écritures, de relire le prophète Amos, de relire le prophète Ésaïe, de relire le prophète Ézéchiel, de relire la Genèse. Alors nous en saurons un peu plus du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, bien sûr, à l'époque, les évangiles n'existaient pas, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Quand Jésus prêche, quand Jésus partage cette parabole, il nous faut relire le Nouveau Testament. Sola scriptura, qui est affirmé, il me semble, dans l'évangile ce matin. Sola fide, la foi. La foi seule, la foi en Dieu. Et la foi, c'est une question de confiance. Avoir foi en Dieu, c'est être en relation avec lui. Mais alors, il nous faut entendre qu'être en relation avec Dieu, c'est aussi être encouragé, être en relation avec notre prochain. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer notre prochain. On ne peut pas aimer notre prochain. En tout cas, c'est plus facile si l'on est porté par l'amour de Dieu. Alors dans cette parabole, nous le voyons bien, il y a séparation totale entre deux hommes qui pourtant sont faits de la même chair, qui ont un même corps, et qui sont pourtant tellement éloignés l'un de l'autre. Et pourtant, ils sont le prochain l'un de l'autre. Sola fide, être fidèle à Dieu, c'est être fidèle à Dieu, bien sûr, comme le pensaient les pharisiens en allant au culte, en méditant les Écritures. Mais c'est être fidèle à Dieu aussi en donnant droit à son prochain, en lui donnant de l'attention, en lui faisant un tant soit peu grâce comme Dieu nous a fait grâce. Et en revisitant ces textes déjà que donnait le prophète Ésaïe, entrer dans l'alliance de Dieu, c'est donner droit, employons les grands mots, à une forme de justice sociale, de solidarité dans notre pays, au cœur de notre peuple. Sola scriptura, sola fide, et enfin, bien sûr, peut-être le cœur de la foi protestante, le sola gratia, la grâce seule. Dans cette parabole, j'ai eu bien du mal à voir la grâce. Elle n'y était pas, aucune grâce de la part de Cerise vis-à-vis du pauvre. Le pauvre ne souhaitait finalement presque quelques miettes de la richesse de ce riche. Il n'y avait même pas droit. Quant à la parabole, vous l'avez entendu, au final, c'est puisque tu étais riche dans le monde terrestre, tu vas être condamné aux enfers, et puisque tu as été pauvre dans ce monde terrestre, alors tu as le droit au paradis. Nous sommes loin, il me semble, là, de la grâce de l'Évangile. Si Jésus a une parole aussi forte ce jour-là, c'est parce qu'il veut provoquer ceux qui entendent cette parabole. Il veut les faire changer d'avis, notamment, comme je vous l'ai dit, les pharisiens sûrs de leur bon droit. Alors, il nous faut entendre cette parole de l'Épître aux Hébreux, qui nous affirme une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Il y avait l'ancienne alliance, mais il y a une nouvelle alliance posée en Jésus-Christ. Et cette nouvelle alliance affirme le pardon de notre péché, nos parts, à cause de notre justice personnelle, de notre capacité à faire le bien, fût-ce même de notre capacité à accueillir notre prochain. Non, cette grâce nous est accordée gratuitement parce que telle est la bonne volonté de Dieu qui décide de gracier son peuple. J'effacerai votre péché. Je conclurai avec vous une alliance nouvelle. Vous aurez ma parole dans votre cœur. On n'aura plus besoin de vous l'enseigner. Et alors tous sauront que je suis le Seigneur. C'est parce que je sais que je suis aimé. C'est parce que je sais que je suis gracié que je n'ai plus à me soucier de moi-même, puisque Dieu se soucie de moi. Et alors je suis libre, puisque je n'ai plus le souci de moi. Je suis libre de me soucier des autres. Je suis libre de me soucier de mon prochain. Je suis libre de lui faire grâce parce que j'ai été gracié. Alors la question n'est plus qui est mon prochain, comme le dit Jésus dans la parabole du bon samaritain, si vous la relisez, mais la question est de qui puis-je être le prochain, puisque dans la parabole du bon samaritain, le prochain c'est cet homme qui s'approche du blessé et qui le réconforte et qui, d'une certaine manière, le ressuscite, parce que s'il ne l'avait pas fait, cet homme serait mort dans le désert. Jésus est notre prochain par excellence, celui qui s'est approché de nous, celui qui a donné sa vie, celui qui veut nous relever, celui qui veut nous ressusciter. Et au nom de ce geste de Jésus, nous sommes appelés nous aussi à être les prochains les uns des autres, les prochains de ceux qui frappent à notre porte, comme nous l'avons entendu dans la volonté de Dieu. N'oubliez pas l'hospitalité, car nous avons aussi cette belle promesse que quelquefois, sans le savoir, en accueillant dans nos maisons des gens, des hommes, des femmes, nous accueillons le Christ lui-même. Frères et sœurs, que Dieu nous donne cette grâce d'être le prochain les uns des autres. Amen.